Bonjour mesdames, messieurs, Nanit Talani avec vous pour cette édition du Monde aujourd'hui de ce lundi 5 août 2024. Au sommaire, le Mali rompt ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, accusé d'implication dans une défaite militaire malienne. Au Nigeria, le président Bola Ahmed Tinubu appelle à la fin des manifestations meurtrières qui ont déjà fait plusieurs victimes. Nous y reviendrons en magazine.
Mes chers Nigériens, en particulier nos jeunes, je vous ai entendu haut et fort. Je comprends la douleur et la frustration qui ont motivé ces manifestations. Et je tiens à vous assurer que notre gouvernement s'engage à écouter et à répondre aux préoccupations de nos citoyens.
En RDC, les rebelles du M23 s'emparent d'Ishasha, une ville stratégique à la frontière avec l'Ouganda. Ici, aux États-Unis, Kamala Harris devrait révéler le nom de son colistier avant une tournée clé de campagne. En magazine, le Tchad réforme ses lois minières pour améliorer la gouvernance et la sécurité du secteur. Et puis, JO à Paris, l'Afrique rayonne avec l'Algérie et le Kenya qui brillent dans la gymnastique et l'athlétisme. Mais tout d'abord, le journal. Le Mali a rompu hier dimanche ses relations diplomatiques avec l'Ukraine, accusant ce pays d'être impliqué dans une lourde défaite de l'armée malienne et du groupe Wagner fin juillet dans des combats contre des séparatistes et des djihadistes à Tinzaouten, à la frontière algérienne dans l'extrême nord du pays. C'est ce qu'a déclaré son porte-parole, le colonel Abdoulaye Maïga. Le Mali dénonce des propos subversifs par lesquels André Youssouf, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, qui a avoué l'implication de l'Ukraine dans ce qu'il appelle une attaque lâche, traître et barbare de groupes armés terroristes ayant entraîné la mort des soldats maliens. Bamako juge que ces actes violent la souveraineté du Mali, dépassent le cadre de l'ingérence étrangère et constituent un soutien au terrorisme international. Le Mali promet de saisir les autorités judiciaires compétentes et prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute déstabilisation de son territoire. Samedi, les autorités sénégalaises avaient indiqué avoir convoqué l'ambassadeur d'Ukraine à Dakar pour avoir publié une vidéo de soutien aux récentes attaques meurtrières contre l'armée malienne et ses alliés russes. Au Nigeria, le président Bola Ahmed Tinubu a appelé hier à la fin des manifestations contre la vie chère et à mettre un terme à l'effusion de sang. Au moins 13 manifestants ont été tués par les forces de l'ordre, selon Amnesty International. Le point avec Rosine Munezero.
Je vous ai entendu clairement. Je comprends la douleur et la frustration qui motivent ces manifestations, a déclaré le président Tinubu dans un discours télévisé. Il a exhorté les manifestants à suspendre toute nouvelle protestation et à créer un espace de dialogue. Les organisateurs des manifestations, une coalition informelle de groupes de la société civile, ont promis de poursuivre leurs actions dans les prochains jours. Des milliers de personnes ont manifesté jeudi et vendredi contre la mauvaise gouvernance et la hausse du coût de la vie au Nigeria. Près de 700 personnes ont été arrêtées lors des deux premiers jours de mobilisation, selon la police qui les accuse de vol à main armée, incendie volontaire et destruction de biens. Amnesty International évoque au moins 13 manifestants tués par les forces de l'ordre. La police affirme de son côté que 7 personnes sont mortes et nie toute responsabilité.
En République démocratique du Congo, la rébellion du M23 s'est emparée hier dimanche d'Ishasha, une localité frontalière de l'Ouganda dans l'est du pays. Mohamedou Oumfa.
Ishasha est passé sans résistance sous contrôle du M23. Les rebelles sont nombreux et bien équipés, tandis que les policiers congolais ont fui en Ouganda, a déclaré Romi Sawasawa, président de la société civile d'Ishasha. Les rebelles ont demandé aux habitants de vaquer librement à leurs activités. Ils ont aussi demandé au Mai Mai, milice pro-gouvernementale, de les rejoindre et au FDLR, rebelles hutu-rwandais, de rentrer chez eux au Rwanda, avant d'appeler les policiers qui ont fui à regagner la ville, a déclaré Racine Mambo, un habitant. Des dizaines de policiers congolais repoussés par le M23 ont traversé la frontière, a déclaré dimanche le chef adjoint de la sécurité ougandaise dans le district de Kanungu, Gad Rugaju. Cette prise a lieu au lendemain de la chute de Nyamilima, grosse agglomération voisine, tombée elle aussi sans combat, selon les habitants. un accord de cessez-le-feu entre Kinshasa et Kigali, censé entrer en vigueur hier dimanche, a été annoncé mardi par la médiation angolaise.
Au moins 37 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées dans un attentat suicide du groupe islamique Radical Shebab, suivi de tirs d'hommes vendredi soir sur une plage fréquentée de la capitale somalienne Mogadiscio. L'attentat revendiqué par ce groupe lié à Al-Qaïda via un message posté sur un site pro-Shebab est l'un des plus meurtriers de ces derniers mois en Somalie. 11 personnes sont en soins intensifs, 64 hospitalisées pour blessures, tandis que 137 personnes légèrement blessées ont pu quitter l'hôpital après des soins, précise une source.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, Kamala Harris pourrait annoncé ce lundi le choix de son colistier dans la course à la Maison-Blanche avant d'entamer avec lui une tournée de plusieurs jours dans les États clés visant à transformer le bon élan de sa campagne en un soutien durable. Plusieurs noms reviennent en boucle, Josh Shapiro, gouverneur de l'État clé de Pennsylvanie, Mark Kelly, ancien astronaute devenu sénateur de l'Arizona, Tim Walz, gouverneur du Minnesota, Andy Beshear, gouverneur du Kentucky et l'actuel ministre des Transports, Pete Buttigieg. C'est un vent de panique qui s'est emparé de l'aéroport de Beyrouth. Il y a eu de très longues files d'attente pour les passagers qui veulent quitter le pays, bousculés par l'accès de tensions au Moyen-Orient. Le point avec John Lindon.
Dans le hall des départs, des familles entières, les enfants sur les genoux ou tentant de dormir, surveillent leurs piles de bagages et les écrans affichant les départs pour Istanbul, Amman ou le Caire. Mais difficile de trouver des places en raison du nombre de vols annulés et de la demande accrue. Le long de la route vers l'aéroport qui traverse la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah, un immense panneau d'affichage proclame « Nous nous vengerons sous les visages d'Ismaël Haniyeh, leader du Hamas, et de Fouad Choker, chef militaire du Hezbollah ». L'Iran et le Hezbollah ont imputé à Israël leurs assassinats et promettent vengeance. La crainte d'une escalade a conduit de nombreuses compagnies aériennes à suspendre leur desserte de Beyrouth. Les appels se sont multipliés hier pour que les ressortissants étrangers quittent au plus vite le Liban. Réunis en visioconférence, les ministres des Affaires étrangères du G7 ont exprimé leurs fortes préoccupations. Le président français Emmanuel Macron et le roi Abdallah II de Jordanie ont déclaré qu'une escalade militaire régionale devrait être évitée à tout prix. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a souligné dans un entretien téléphonique avec le premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soutani l'importance pour toutes les parties de prendre des mesures d'apaisement.
Au Bangladesh, les heurts entre opposants à la première ministre Sheikh Hasina, forces de l'ordre et partisans du parti au pouvoir ont fait au moins 77 morts dimanche. C'est l'une des journées les plus meurtrières depuis le début des manifestations antigouvernementales dans le pays. Le point avec Michel Joseph.
Parmi les morts figurent au moins 14 policiers selon la police et au moins 283 personnes ont été tuées depuis le début des manifs le mois dernier. Bijoy Bazak, inspecteur général adjoint de la police, a indiqué que des manifestants ont pris d'assaut un poste de police dans la ville d'Enayatpur et tué 11 policiers. Au moins 12 personnes sont mortes dans la capitale d'Aaka, dont plusieurs par balle, tandis que 18 autres ont perdu la vie dans le district de Shiraj Ganj, dans le nord du pays. Tout Dhaka s'est transformé en champ de bataille et une foule de plusieurs milliers de manifestants a mis le feu à des voitures et des motos. Pour rétablir l'ordre, le gouvernement a coupé l'accès à Internet, imposé un couvre-feu et déployé l'armée. Dans ce pays musulman de 170 millions d'habitants, dont de nombreux diplômés chômeurs, les étudiants exigent l'abolition d'un système de discrimination positive accusé de favoriser l'embauche de proches du pouvoir. Partiellement aboli en 2018, ce système a été restauré en juin par la justice, mettant le feu aux poudres. La crise sociale s'est muée en crise politique à partir du 16 juillet, lorsque la répression a fait ses premiers morts. Maintenant, les manifestants réclament la démission de Madame Hazina, 76 ans, au pouvoir depuis 2009.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, le journal des JO. L'Afrique a connu des moments mémorables hier. Kaila Nemo d'Algérie a conquis l'or en gymnastique artistique, tandis que David de Pignard du Cap-Vert a décroché une médaille de bronze en boxe. Des moments historiques pour l'Afrique que nous fait revivre Élisée Oupata.
Bonjour à tous. Après chaque journée, les Jeux Olympiques se montrent très riches en performances et en médailles. Ce fut le cas hier sur l'épreuve reine de l'athlétisme. Les 100 mètres remportés par l'Américain Noah Lyles devant le Jamaïcain Keyshawn Thompson. Il permet aux États-Unis de remettre la main sur ce titre qui était devenu la chasse gardée des Jamaïcains. Chez les dames, c'est la Sainte-Lucienne, Julienne Alfred, qui est sortie vainqueur sur la même distance devant les meilleurs finalistes engagés. Elle offre ainsi à son pays sa première médaille olympique de l'histoire. Une première aussi pour Novak Djokovic dans sa carrière en tennis après son succès en 2-7 devant l'Espagnol Carlos Alcaraz. Le Serbe est entré dans le gotha très fermé des tennismen qui ont remporté tous les titres. L'Afrique aussi s'est illustrée hier dimanche grâce à l'Algérie en gymnastique artistique au niveau des femmes. Kaila Nemo se pare d'or au bout du suspense devant la Chinoise Kuyan et le bronze pour l'Américaine Sunisa Lee. À la bosse, le Cap-Verdien David de Pignard a pris le bronze dans la catégorie des moins de 51 kg après avoir perdu sa demi-finale devant l'Ouzbek Dousmatov. Médaille assurée aussi pour la bosseuse algérienne des moins de 66 kg Iman Khelif, qui est sortie vainqueur de son combat en quart de finale contre la Hongroise Anna Luka Amori. Que le continent n'a pas raté son entrée en athlétisme avec la médaille d'or en 10 000 mètres remportée par l'Ougandais Joshua Cheptegei devant l'Éthiopien Beirou Aregawi. D'autres médailles peuvent tomber ce lundi aux 800 mètres chez les femmes avec la Kenyane Chebet Kiprotich ou encore l'Éthiopienne Mesele. Déception par contre pour la Béninoise Noélie Yarigo. Une fois encore, la Guépard de Panjari n'ira pas plus loin que les demi-finales. La porte-drapeau de la sélection béninoise qui avait nourri l'ambition de gagner une médaille olympique pour la première fois à son pays a été éliminée aux portes de la finale. Analyse de cet échec avec Lawadine Kosuro, journaliste sportif à Radio-Télé Kafou au Bénin.
Sa performance au dernier mondial d'athlétisme avec la médaille de bronze obtenue était comme l'arbre qui cachait la forêt. C'est vrai qu'elle a pu se hisser en demi-finale comme il y a 4 ans. Elle échoue aux portes des demi-finales. Mais pour l'heure, on constate que malheureusement, les Béninois ne sont pas assez préparés. Vu les éliminations qu'on a constatées dans d'autres disciplines, le judo de la natation, donc il faut encore du chemin pour la Béninois avant donc d'espérer obtenir une médaille aux Jeux Olympiques.
Et si l'athlétisme prend son rythme de croisière au Stade de France, en revanche, c'est fini pour les épreuves de natation où le continent s'en est bien tiré avec 2 médailles, une en or et une en argent sur les 100 et 200 mètres brasse, remportées par la Sud-Africaine Tatjana Smith. Belle prestation au handball masculin et au basket féminin de 2 pays d'Afrique, l'Égypte et le Nigeria. Les Pharaons sont en quart de finale après avoir battu l'Argentine 34-27, tout comme les Tigresses nigérianes victorieuses des Canadiennes 79-70. Au second tour, l'Égypte sera opposée à l'Espagne et le Nigeria, plus compliqué, sera face aux tenantes du titre américaine. Et en attendant ces quarts de finale prévus le mercredi, le Maroc et l'Égypte seront sur les pelouses ce lundi en demi-finale dans le tournoi de football masculin. Les Lions de l'Atlas joueront l'Espagne et les Pharaons seront face à la France.
La suite des programmes de cette 10e journée olympique aujourd'hui, avec une fois encore des chances de médaille pour l'Afrique Sud de finale, le 800 et le 5000 mètres féminin. Mais avant, on aura les repêchages au niveau des 400 mètres haies chez les dames, où la Camerounaise Linda Ngounou devra batailler pour valider sa place en demi-finale. Sinon, pour le reste, il y aura du tennis de table par équipe et l'Égypte va affronter sa pays chinoise en 8e de finale.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Talani, toujours en votre compagnie, voici notre page magazine avant de clore ce journal. Au Nigeria, suite au mouvement de protestation qui secoue le pays ces derniers jours, le président Ahmed Bola Tinubu exige la fin des manifestations meurtrières. Les manifestants revendiquent des réformes plus rapides et une action du gouvernement pour atténuer les difficultés liées au coût de la vie. Le point avec Gilbert Tamba, notre correspondant à Abuja.
Mes chers Nigériens, en particulier nos jeunes, je vous ai entendu haut et fort. Je comprends la douleur et la frustration qui ont motivé ces manifestations. Et je tiens à vous assurer que notre gouvernement s'engage à écouter et à répondre aux préoccupations de nos citoyens.
L'intervention du président Ahmed Bola Tinubu était attendue bien avant le début des manifestations. Il a choisi de parler au 4e jour des manifestations prévues pour 10 jours. Il n'a pas indiqué s'il reviendra sur sa politique de supprimer les subventions sur le carburant, l'une des principales revendications des manifestants, ou à mettre fin à l'ancrage de la monnaie locale au dollar. Bola Ahmed Tinubu.
J'ai donc pris la décision douloureuse mais nécessaire de supprimer les subventions sur les carburants et d'abolir les systèmes d'échange multiples, ce qui a entraîné des difficultés économiques pour notre nation. Ces décisions que nous avons prises étaient nécessaires si pour nous permettre de mettre fin à la mauvaise gestion économique qui n'a duré plus d'une décennie, qui ne nous a pas aidés.
Peu après son discours, l'un des meneurs des manifestations, Deji Adeyanju, activiste et avocat, a réagi.
Le discours n'a pas répondu aux préoccupations des manifestants, il n'a même pas répondu à une de nos revendications. Le discours semblait plutôt un discours de campagne. Le président n'a pas abordé les questions liées à la manière de lutter contre la faim dans le pays. La seule chose, le président a dit qu'il était prêt à dialoguer avec les manifestants. Aussi noble que cela puisse paraître, cela ne suffit pas.
Un avis que partage l'ancien candidat à la présidentielle de 2023 du parti ADC, Dumebi Kadikou.
Je n'ai pas vu dans le langage corporel du président un homme affecté par ce qui s'est passé la semaine dernière. Un président du pays qui a perdu 19 de ses citoyens à cause d'une manifestation sanglante où des commerces ont été fermés. Je n'ai pas vu de regret dans son langage. J'ai juste vu un homme lire un discours préparé.
Apparemment, le message du président Tinubu n'a pas convaincu les manifestants qui menacent de poursuivre leur mouvement. Les manifestations qui ont débuté pacifiquement sont devenues violentes dans certaines régions, faisant des morts dans les états du Borno, Jigawa, Kano, Kaduna et autres. Réaction des manifestants.
Pour que les Nigérians se rassemblent et expriment leur mécontentement face à la mauvaise gouvernance, s'expriment face à la corruption, expriment leur mécontentement face au pillage de notre trésor national, personne ne sponsorise ce mouvement. C'est une prise de conscience sur les réseaux sociaux qui a été déclenchée par la faim.
Amnesty International a évalué le bilan à 13 morts dans tout le pays et a appelé dimanche à mettre en place une commission d'enquête internationale. Au pouvoir depuis mai 2023, le président Tinubu a défendu ses réformes économiques qui incluent la suppression des subventions sur le carburant et l'électricité et la dévaluation du Naira comme étant nécessaires pour mettre fin à des années de mauvaise gestion économique. Gilbert Tamba, Abuja pour VOA Afrique.
Au Cameroun, le gouvernement menace de radier les absentéistes de la fonction publique. Plus de 7000 cas d'absence irrégulière ont été recensés au sein du personnel de l'État. Le gouvernement a initié une procédure de révocation des fonctionnaires fictifs ou inscrits aux abonnés absents. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Juntap.
De nombreux Camerounais subissent au quotidien les conséquences de l'absentéisme prolongé du personnel de l'État au poste de travail.
Rose Makanjo est une veuve et témoigne.
Quand je suivais le dossier de pension, retraite de mon époux, quand je suis arrivée, il n'y avait pas ceux qui étaient chargés pour me donner des informations à propos de ce que je voulais. Donc j'étais obligée de rentrer et à chaque fois, il y avait toujours quelqu'un qui manquait. Le dossier a finalement abouti quoi. Mais cette situation d'absentéisme, ça bloque souvent les gens. Donc vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez rapidement.
Lors du conseil de cabinet du mois de juillet dernier, le Premier ministre a instruit la révocation de tout agent public absent de son poste pendant plus de 30 jours. Réaction de Christophe Elanga, un employé du secteur privé.
Je crois que si aujourd'hui on est encore au point de s'alarmer, vous comprenez que notre administration ou les administrateurs ou bien les différents responsables de notre administration n'ont pas encore compris ce que l'on appelle la notion du service. Dans des nations sérieuses, ce n'est pas au Premier ministre de s'alarmer. Cela dénote du manque de sérieux et du manque de vision des hommes et des femmes qui ont décidé de servir notre nation.
Pour l'opposition, le gouvernement paye par cette situation les conséquences d'une mauvaise politique de l'emploi et des conditions de travail du personnel de l'État. Louis-Marie Cacdeux, deuxième vice-président du Social Democratic Front, SDF.
Ventre affamé n'a point d'oreille. Et qu'au Cameroun, il est impossible de demander aux gens de se concentrer dans la précarité. Le niveau de salaire est très bas au Cameroun. Et ce salaire a été divisé par 3 il y a 30 ans. Et donc, depuis 30 ans, le salaire a plus ou moins été gelé. Et les gens n'ont pas la capacité de travailler, de se concentrer dans un seul bureau. Les gens sont au Cameroun obligés d'aller travailler, de combiner plusieurs emplois pour s'en sortir. Et si vous voulez avoir un logement décent, si vous voulez payer la scolarité de vos enfants, si vous voulez pouvoir avoir une alimentation équilibrée, si vous voulez payer vos soins de santé, ce n'est pas en travaillant dans la fonction publique que vous pouvez faire ça.
Le gouvernement entend passer désormais à l'application stricte des dispositions réglementaires contre le personnel de l'État en situation d'absence irrégulière. Joseph Anderson Lee, ministre de la fonction publique.
Et qu'un agent public n'aura pas été à son poste de travail pendant 30 jours, il mérite tout simplement une révocation ou un licenciement. Il existe beaucoup d'autres mesures qui sont contenues dans le statut général de la fonction publique.
Sur 8766 cas d'absence irrégulière signalés, 7133 fonctionnaires de l'État n'ont pas pu justifier leur absence, mais continuent à émarger au budget de l'État. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Tchad, la Société nationale des mines et de la géologie, la SONEMIC, vulgarise le cadre juridique et réglementaire des activités minières. C'est dans la perspective d'améliorer la gouvernance minière que le gouvernement a décidé de renforcer ce cadre législatif afin de moderniser le secteur minier. André Kodmadingar, correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Cette société a pour mission de moderniser le secteur minier au Tchad à travers la création d'un guichet unique permettant d'octroyer l'autorisation pour l'achat, la vente de l'or et autres métaux précieux, y compris les autorisations d'exploitation artisanale, de traitement, de gestion des sites et de transport. Madame Khadija Hassan Abdoulaye est la directrice générale adjointe de la SONEMIC.
Le paillage a depuis toujours été critiqué comme étant une activité informelle, alors qu'elle est quotidienne, évidemment, formalisée et légalisée dans les textes. À cela s'ajoutent les insuffisances en termes de modalités d'application du code minier, raison pour laquelle, depuis 2023 jusqu'en 2024, deux nouveaux textes réglementaires ont vu le jour et ils s'inscrivent particulièrement dans le cadre de l'organisation du secteur artisanal et le traitement des déchets qui dégradent véritablement l'environnement sans toutefois que l'État puisse bénéficier des retombées.
Quelques représentants des chefs traditionnels déplorent le comportement des agents de sécurité déployés sur les différents sites et l'action des orpailleurs qui contribuent à la dégradation de l'environnement.
Quand ils envoient des agents de sécurité, eux, leur travail là-bas, c'est pour chercher seulement leur poche. Ils ne sont pas là pour protéger la population.
Il ne faudrait pas que les gens aillent exploiter le sous-sol et laisser
des grands trous au village et tout ce qu'on a comme des animaux, ils tombent dedans, même les enfants. Donc quand on exploite, il ne faut pas laisser à l'air libre les produits finis. Parce que là, ça dégrade le sol.
Pour Mme Khadija Hassan Abdoulaye, directrice générale adjointe de la SONEMIC, la situation sécuritaire sur le site sera réglée à travers la formation en cours des éléments de la brigade minière spécialisée.
La SONEMIC, à travers cette brigade minière spéciale, qui est la structure chargée du contrôle de la sécurité, elle est en train de constituer un pool spécialisé après quoi elle pourra le déployer sur les différents sites pour maintenir la sécurité, garantir une exploitation organisée, modernisée et responsabiliser chaque acteur selon leurs obligations.
Hissène Abdoulaye, représentant de l'ONG 4 Trous, une organisation de la société civile, dit avoir des inquiétudes sur la question de la sécurité des sites et des artisans.
Si vous prenez des exemples récents, notamment dans la zone de Kouribougoudi, les forces de défense ont commis des exactions et qui ne sont jamais reprochées. Et donc, le plus grand souci pour moi, c'est que quelles seront les responsabilités, notamment de la brigade spéciale minière, en cas de commission des actes qui sont à caractère pénal et à caractère criminel. Si ces questions d'impunité ne sont pas prises en compte, les forces de défense et de sécurité vont toujours commettre ces exactions-là.
En vulgarisant ce cadre juridique et réglementaire des activités minières au Tchad, la SONEMIC entend moderniser l'exploitation artisanale, valoriser les indices existants et continuer l'inventaire pour un développement industriel à l'horizon 2030. André Kodumazingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Un nouveau directeur régional de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, sera désigné lors de la 74e session du Comité Afrique de l'Agence onusienne qui se tiendra du 26 au 30 août 2024 à Brazzaville, au Congo. Plusieurs candidats briguent le poste, parmi lesquels le Rwandais Richard Mihigo. Mouamadou Oumfa lui a demandé quelles seront ses priorités pendant les 5 ans de son mandat s'il devenait le nouveau patron de l'OMS pour l'Afrique.
Ayant passé 18 ans au sein de l'Organisation mondiale de la santé, j'ai vu de l'intérieur ce que nous pouvons faire pour venir et travailler en étroite collaboration avec les pays. Je me suis dit que, avec l'expérience que j'ai accumulée, non seulement au niveau national, mais également au sein de l'OMS et au-delà, je pouvais apporter un changement nouveau pour la réalisation des ambitions transformatives pour le continent africain, tout en travaillant de concert avec les États membres.
Est-ce que, brièvement, vous pouvez nous présenter les éléments clés de votre programme? Que feriez-vous si vous deveniez le directeur de l'OMS pour l'Afrique?
Mon ambition pour la région africaine est la résultante d'une réflexion profonde. Et c'est cette réflexion profonde qui m'a amené à développer un programme qui s'articule autour de 5 axes prioritaires. Le premier axe prioritaire est l'amélioration de l'accès à la couverture santé universelle. Je vais mettre un accent particulier sur la revitalisation des soins de santé primaires qui sont accessibles à toutes les populations partout où elles se trouvent. Ma deuxième priorité est de renforcer les capacités de préparation, de prévention et de riposte aux épidémies, mais également à des éventuelles pandémies pour l'avenir. Ma troisième priorité, comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre les problèmes de maladies transmissibles qui restent encore un fardeau important pour la région africaine, les maladies non transmissibles, mais surtout la forte charge de mortalité maternelle et infantile que notre continent traverse encore aujourd'hui. Nous sommes la région qui, malheureusement, a encore le plus haut taux de mortalité maternelle au niveau mondial. Ma quatrième priorité est de renforcer un secrétariat au niveau de la région africaine pour réellement répondre aux besoins des pays. Et enfin, je voudrais m'articuler sur les déterminants de santé. Parce que comme vous le savez, les populations en fait sont vulnérables parce que les déterminants non seulement sociaux, économiques, mais également culturels, qui font qu'on est en bonne ou en mauvaise santé, ne sont pas réellement contrôlés comme il faut.
Parfois, les gens considèrent que l'OMS est une organisation occidentale. Comment est-ce que vous ferez pour convaincre les gens que l'OMS tient compte des réalités africaines, notamment de la médecine traditionnelle africaine qui reste très répandue sur le continent?
cette perception d'une Organisation mondiale de la santé qui est en dehors du cadre de planification des États est quelque chose sur laquelle je vais m'atteler à réellement changer. Je voudrais que le secrétariat de l'OMS réponde avant tout aux exigences des États membres, aux besoins ressentis par les pays et non l'inverse. La médecine traditionnelle fait partie de l'arsenal que nous proposons de développer. Une médecine traditionnelle qui sera non seulement financée, mais également où nous allons appliquer les règles de l'art pour la promotion, mais également rechercher la place que cette médecine traditionnelle doit avoir.
Docteur Migo, candidat au poste de directeur régional du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. C'est la fin du monde aujourd'hui. Merci de nous avoir accueillis chez vous à la présentation d'Annie Talani, à la mise en onde de Michel Joseph à la tête.